Chers auditeurs, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission des grands entretiens de Storia Voce. Dans un livre paru il y a plus de 30 ans, l'historien allemand Alexander Demant avait énuméré la totalité des théories développées par les études historiques permettant d'expliquer la chute de l'Empire romain. Demant arrivait à un total assez surprenant de 210 hypothèses. Certaines relevaient d'explications sérieuses, le déclin de la ville de Rome, les problèmes économiques, ses problèmes fiscaux, la corruption politique aussi, autant d'idées qui restent encore au centre des recherches et donc des débats entre historiens. D'autres relevaient davantage de la sociologie, la chute de l'Empire s'expliquerait par exemple ainsi par l'émancipation des femmes, par le relâchement des mœurs ou encore par l'influence des religions comme le judaïsme ou bien évidemment le christianisme. Enfin, d'autres thèses, cette fois plus farfelues, étaient avancées comme les épidémies, l'abandon des terres, le changement climatique ou bien même les séismes, des séismes aussi inattendus que destructeurs. L'histoire de la chute de Rome nous apparaît ainsi comme une histoire sans fin, faisant les choux gras des éditeurs. La chute est d'autant plus prégnante qu'il règne aujourd'hui comme une atmosphère au moins de fin d'époque, au pire de décadence, relayée non seulement dans la presse, la production éditoriale, mais aussi dans ces arènes plus passionnées que passionnantes que sont les réseaux sociaux. Storia Voce vous propose une plongée à la fois dans l'historiographie, mais aussi dans ce qui semble essentiel à l'historien, je dirais même primordial, la chronologie de la chute de Rome. Bertrand Lançon, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes professeur émérite d'histoire romaine, grand spécialiste de l'Antiquité. Vous avez écrit plusieurs ouvrages. Je me contenterai de mentionner votre travail sur Théodose, paru aux éditions Perrin il y a 3 ans, je crois, de cela. Et tout récemment, vous venez de publier La chute de l'Empire romain, une histoire sans fin, toujours chez le même éditeur. Ma première question, Bertrand Lançon, est au fond très simple. Pourquoi cet ouvrage, alors que précisément, comme je disais dans l'introduction, il y a tant d'ouvrages sur la chute ?
Eh bien, il tient, je pense, cet ouvrage à la lecture complète du titre, La chute de l'Empire romain, une histoire sans fin. Si on prenait le premier syntagme, la chute de l'Empire romain, ce ne serait qu'une brique de plus sur celles qui s'ajoutent les unes aux autres depuis le XVIIe siècle. Mais il faut le lire en entier, une histoire sans fin, parce que, d'une part, je propose d'abandonner purement et simplement le paradigme de la chute, en disant que c'est un événement qui a été fabriqué a posteriori par les historiens et dont les causes ont été recherchées en vain, puisqu'il n'y a pas d'événement ponctuel de la chute de l'Empire romain. Donc le grand thème de ce livre, c'est abandonner le paradigme de la chute pour parler de l'Empire romain. Et une histoire sans fin, parce que, vous venez de le dire, depuis le XVIIIe siècle, des livres sont parus en nombre sur ce thème, mais tout particulièrement durant les 15 dernières années, où il y a une prolifération, le mot serait peut-être un peu exagéré, en tout cas une densité de publications sur ce thème, qui fait que j'ai eu envie de couronner l'ensemble en étudiant tout ce qui a été écrit sur ce thème depuis 15 ans. Donc c'est à la fois un livre d'histoire, mais aussi un livre d'historiographie. On tourne en rond en cherchant des chutes à un événement qui n'existe pas en tant que tel.
Alors généralement, on divise les écoles en deux grandes catégories. La première catégorie, vous la mentionnez, c'est ceux qui estiment qu'il y a véritablement, historiquement, une chute à un moment précis. On pense dernièrement à l'ouvrage de Michel de Gégère, qui est un ouvrage important, volumineux. Et il y a ceux qui, comme vous, pensent que l'événement n'a pas lieu. Mais est-ce qu'il y a aussi une troisième catégorie, ou est-ce que cette troisième catégorie est inclue dans cette deuxième catégorie d'une, j'allais dire, du temps long, c'est-à-dire que on pense par exemple à Henri Pirenne, qui lui estimait que la vraie chute se situait dans la domination musulmane de la Méditerranée.
Oui, Pirenne qui a été beaucoup discuté, qui a dit dans son fameux livre « Mahomet et Charlemagne », a dit des choses qui ont été très attaquées, mais aussi des choses justes, en particulier du fait de la longue durée. Moi, je me situe dans la catégorie des continuistes, qui est décrié par ceux qui pensent qu'il y a eu un affaissement brutal dû à des causes économiques et militaires, et qui ne se rallie pas forcément d'ailleurs à la date de 476, qui n'a été retenue de façon académique dans les programmes d'histoire depuis la Troisième République que comme l'abdication du dernier usurpateur de l'Empire romain, Romulus Augustule. Parce qu'il fallait périodiser et donc donner une date de fin à l'Antiquité. On a choisi 476 à cause de ce fait qui est absolument inexistant dans les sources latines de l'époque. L'événement de 476 passe totalement inaperçu à l'époque. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de traumatisme de chute. Parce qu'il n'y a pas de chute, tout simplement, en 476. On a pris une césure artificielle. 476 n'est pas la fin de l'Antiquité, n'est pas non plus la fin de l'Empire romain, parce qu'un certain nombre de piliers de la romanité perdurent pendant le 6e, le 7e, et même jusqu'à l'époque carolingienne.
Donc, pas de césure, mais on imagine, on se représente cette idée de chute que vous remettez en cause, mais malgré tout, il y a des changements. On dit dans l'histoire que toutes les périodes sont des périodes de transition, mais il y a des phénomènes, vous parliez des phénomènes économiques, on peut parler des phénomènes militaires, etc. Il y a les invasions barbares. Tout ça, ce sont des éléments qui, d'après vous, sont surinterprétés.
Non seulement surinterprété, mais construit depuis l'époque moderne, avec des accents qui sont mis tour à tour sur des aspects qui sont des aspects civilisationnels. Aujourd'hui, par exemple, nous vivons une période qu'on pourrait qualifier de grande migration, en mettant de gros guillemets à grande. C'est pourquoi le paradigme des invasions barbares, qui était aussi une migration, pose beaucoup de questions aujourd'hui, et certains se hasardent à des comparaisons qui me paraissent totalement hors de propos. Un peu plus tôt, au XXe siècle, à une époque qu'on pourrait dire triomphe de la science, on a voulu apporter des explications scientifiques, qui soient démographiques et biologiques, par exemple, à la chute de l'Empire romain. Mais si l'on revient à la liste qu'a établie Alexander de Mant en 1984, et qui est le livre qui a été réédité il y a 2 ans pour les 80 ans du savant, si l'on prend ces 210 facteurs de soi-disant chute de l'Empire romain, on serait amené à considérer que tout État vit dans la chute permanente. Non, l'étude de Demand n'était pas la recherche positive d'une chute, c'était une étude sur toutes les interprétations qui ont été données de la chute de l'Empire romain depuis la Renaissance.
Mais on sait que l'idée d'empire se perpétue, et la France elle-même a eu une vocation impériale ou des vocations impériales à plusieurs moments de son histoire. C'est l'idée d'empire qui se perpétue, qui est héritée de l'Empire romain. Mais si il y a une volonté de perpétuation de cette idée, c'est qu'à un moment, l'idée d'empire disparaît.
Non, justement. Elle ne disparaît pas.
Dans les faits.
Elle peut, dans les faits, concrètement, s'effacer. Mais, par exemple, le Sénat romain, l'Assemblée aristocratique romaine, ne s'éteint pas, elle dure jusqu'au IXe siècle. De la même façon, Charlemagne, Othon au siècle suivant, et puis Napoléon, par exemple, se veulent les recréateurs d'un empire romain. D'ailleurs, le mimétisme iconographique entre Napoléon, Bonaparte-Napoléon et l'empereur Auguste est manifeste.
Alors, dans votre ouvrage, il y a deux grands penseurs de la chute que sont, et que vous opposez. C'est Gibbon qui est très connu, Gibbon. En revanche, on connaît beaucoup moins Ozanam.
Ah oui. Gibbon, c'est le 18e siècle anglais. C'est la libre pensée. C'est un petit peu le, sans vouloir faire un raccourci abusif, le Voltaire anglais. Également dans la mesure où il est considéré essentiellement comme un homme de lettres, un grand écrivain, un grand manieur de la langue anglaise. Et son livre, The History of the Decline and Fall of the Roman Empire, publié dans la deuxième partie du XVIIIe siècle, est considéré comme un classique de la littérature anglaise. Or, lui, il prolongeait l'histoire du déclin et de la chute jusqu'en 1453 et la chute de Constantinople devant les Turcs. Quant à Ozanam, lui, c'est tout à fait le contraire. C'est quelqu'un de très français, parce que c'est un catholique fervent qui était professeur de l'université laïque. Il étudiait un peu ce qu'on appellerait aujourd'hui la littérature comparée. Et il fait partie de ces intellectuels français du 19e siècle, la deuxième partie du 19e siècle, qui, tout en étant très catholique, avait une certaine idée de la laïcité, tout en défendant dans l'histoire un pouvoir salvateur du christianisme. Et Ozanam, à mon avis, qui est une très grande figure, parce que lui, il a écrit, ses élèves ont recueilli ses conférences sous la forme de volume qui s'appelle « La civilisation au 5e siècle ». Et le 5e siècle, c'est précisément le siècle supposé du déclin, de l'effondrement. Donc pour lui, pour Ozanam, le christianisme d'une part, et l'arrivée et l'installation de barbares dans l'Empire romain sont deux forces nouvelles qui, loin de participer à un pseudo-effondrement de l'Empire romain, sont au contraire des forces vives, des forces de renouvellement. D'autant plus qu'il y a une osmose possible entre barbares et christianisme. C'est-à-dire que ces barbares qui se sont installés, les trois quarts au moins, sont christianisés.
Se convertissent. Oui. Alors, pas de chute en 476, mais en revanche, plus de 70 pages de votre ouvrage, qui en compte plus de 300, sont consacrées à un événement particulier, qui est le sac de Rome. Ouais. Nous sommes au début du 5e siècle, en 410. Est-ce à dire que, au fond, ce n'est pas 476 qu'il faut retenir, mais que 410 est beaucoup plus déterminant dans la perception des contemporains d'un changement, pas d'une révolution, je déteste ce terme de révolution, mais d'un changement plus qu'un symbole, parce que au fond on se dit cette ville qui dominait toute une partie de notre terre, eh bien, était investie par des forces extérieures.
C'est une remarque tout à fait juste et je vous en remercie. J'ai effectivement hypertrophié, on peut le dire, le chapitre qui est consacré à la chute de Rome en 410. J'entends par chute ici le sac de la ville pendant 3 jours par les Goths. J'ai voulu en quelque sorte épuiser l'événement et montrer aussi que 410 a été déterminant dans la perception de cela, alors que concrètement ce n'était pas le cas. Tout se passe dans les esprits, alors que 476 n'est pas une chute, C'est une simple déposition d'un empereur sans grand pouvoir. Le sac de 455, c'est un pillage par les Vandales pendant 15 jours. Mais 410 a été un véritable trauma pour les esprits. C'est-à-dire que la ville de Rome, qui a été mise sous blocus à partir de 408 et non pas assiégée, qui a été affamée, a servi à Alaric et aux Goths à essayer de faire pression sur l'empereur de Ravenne pour qu'il leur donne des terres et un traité d'alliance. Et donc, c'était une pression pour qu'il soit intégré.
L'empereur n'était pas à Rome.
L'empereur n'était pas à Rome, et il se trouve que pendant le sac de Rome, l'évêque de Rome était à Ravenne. Mmh. Donc les chrétiens n'avaient pas leur leader avec eux. Mmh. Et donc, je ne dirais pas que Rome a été livrée à elle-même, mais en 410, les seuls leaders de la ville, c'était les sénateurs, c'est-à-dire un groupe de riches aristocrates qui ont donc traité directement avec Alaric. Mais il y a eu beaucoup de... ce que je veux dire par là, c'est fondateur dans la perception, dans le sens où des auteurs comme Saint Jérôme, Saint Augustin, Orose ont réagi au sac de Rome, et dans des sens assez différents. Jérôme, qui à ce moment-là était installé à Bethléem depuis plus de 20 ans, est catastrophé parce qu'il est très traditionnel, c'est un moine, il est, pour lui, il pleure la chute de Rome, pleure et déplore, alors qu'Augustin, lui, décide d'écrire la cité de Dieu. Il va mettre à peu près 15 ans à la réaliser dans son ensemble, pour expliquer aux païens que ce n'est pas les chrétiens les fauteurs du trouble, et pour expliquer aux chrétiens l'existence possible de malheur alors que les empereurs sont devenus chrétiens. C'est ça le but de la cité de Dieu. Et comme c'est un ouvrage d'une très 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 grande ampleur, il a délégué à un prêtre de ses amis qui s'appelait Orose, un prêtre espagnol, pour écrire un abrégé d'histoire romaine qui a été publié en 417 pour montrer qu'il y avait eu des pestes et des malheurs avant que les chrétiens soient au pouvoir et que rien ne changeait, qu'au contraire finalement, les Goths qui étaient christianisés et qui n'ont pillé Rome que pendant 3 jours et respecté la basilique Saint-Pierre étaient les instruments d'une providence clémente pour dire aux Romains, voilà, ben vous n'êtes pas suffisamment convertis, il faut être plus chrétien que ça. Donc, mais l'enseignement d'Augustin est beaucoup plus profond dans le sens où il dit, de toute façon, même si les empereurs sont devenus chrétiens, l'Empire romain, même si c'est un très bel édifice, c'est le meilleur qu'on ait jamais vu, est comme toutes les constructions humaines, périssable et mortel. Par conséquent, il faut que vous, chrétiens, vous vous habituiez au fait que Rome n'est plus éternelle, parce qu'elle ne l'a jamais été. Certes, elle a plus de 1000 ans, mais les chrétiens, leur véritable patrie est une patrie spirituelle, leur patrie terrestre est une patrie éphémère, et donc il faut s'habituer à être en dehors de l'Empire romain ou ne pas lier son sort à celui de l'Empire romain. Donc d'une certaine manière, Augustin se défait de la chute. Il dit, mais la chute ou pas chute, peu importe.
Mais on est dans un phénomène de glissement, parce que vous évoquez justement le côté le paganisme qui est toujours présent, Augustin qui dit que finalement les gens ne sont pas assez chrétiens, donc il y a une évolution, on passe d'un monde à un autre, mais ce passage d'un monde à un autre, d'un monde à la fois christiano-païen à un monde chrétien, va se faire dans le temps.
Oui, encore faudrait-il examiner ce qu'on appelle paganisme à cette époque, parce que à lire les intellectuels païens de la fin du 4e et du début du 5e siècle, on s'aperçoit que leur paganisme n'a rien à voir avec le vieux polythéisme romain. C'est au contraire une sorte de monothéisme néoplatonicien. Pour eux, toutes les divinités sont les facettes d'un seul Dieu. Donc, d'une certaine manière, ce n'est pas le monothéisme qui divise les chrétiens et les païens à cette époque-là. C'est peut-être plutôt un certain sens de l'histoire. Les chrétiens voyant des idoles là où les païens voient un patrimoine qu'il faut conserver. D'une certaine manière, les païens sont des traditionnalistes du rituel romain, des cérémonies romaines, pour qui il ne faut pas abandonner ces aspects-là, qui sont constitutifs pour eux d'une prospérité de l'Empire. Et les chrétiens, en fait, n'en sont pas éloignés. Ce qu'ils vont faire, c'est inventer d'autres choses, comme les années 410, ça correspond aussi aux années où la croix, en tant que signe impérial, arrive vraiment de manière décisive sur les monnaies.
Alors, je reviens sur Ravenne. Je passe du côté religieux au côté politique, même si les deux étaient intimement mêlés. Ravenne, n'est-ce pas le symbole d'un pouvoir aux abois ? Parce que Ravenne est entourée de marécages, si mes souvenirs
sont bons.
C'est
ça, oui. C'est une ville imprenable.
Qui est tournée vers l'Orient, puisque c'est un port.
En tout cas, vers l'Adriatique.
Vers l'Adriatique.
Disons que la ville étant imprenable et ayant un port, grâce à l'Adriatique, peut être en contact direct avec Constantinople.
Parce que...
Navalement parlant.
Exactement. Il ne faut pas oublier qu'il y a un empire d'Orient, il y a un empire d'Occident.
Voilà.
Donc, quand on parle de la chute, déjà, si on devait parler de la chute, on ne parlerait que de l'empire et que de la chute d'Occident.
C'est ça. Ravenne est un peu un repli, effectivement. C'est Honorius qui a choisi de quitter Milan comme résidence principale impériale vers 405-406 parce que les Goths ont fait des incursions en Italie, et lui et les hauts fonctionnaires de son palais se sont rendus compte que Milan était une ville facilement prenable, ce qui n'était pas le cas de Ravenne. Donc c'est un choix stratégique, un choix stratégique. Un mauvais choix pour la santé, parce que c'est avec les marécages de Ravenne, c'est la pullulation des moustiques, c'est un terrain malarien très fort. Mais il n'empêche que ce n'est pas vraiment un pouvoir aux abois, je ne dirais pas ça. La preuve en est, c'est que lorsque Romulus Augustule est parti, les Goths qui se sont d'abord Odoacre puis les Goths ont conservé Ravenne comme capitale en Italie. Donc ils n'étaient pas aux abois non plus. La question n'est pas là, c'est un repli stratégique, tout simplement.
Alors je reste sur 410 avant de passer sur ce que vous appelez les miroirs, qui est une très belle image. Page 76, le sac de la ville. Les Goths ne prirent pas Rome, ils y entrèrent, par une porte ouverte. On a l'impression un peu de revivre la prise de la Bastille qui n'a pas été prise. Ça relève, alors, les parallèles historiques ont leurs limites, mais votre livre le montre très bien. J'ai pensé à cela.
C'est vrai que l'hypothèse la plus vraisemblable est celle d'un accord entre les sénateurs romains et Alaric, accord selon lequel, c'est l'hypothèse vraiment la plus vraisemblable, selon lequel le Sénat autorisait les Goths à entrer, et on leur ouvrait les portes, mais ils ne pilleraient que pendant 3 jours, sans commettre de violence, ni attenter au lieu de culte.
Ce qui se passe un peu, je crois, sous le règne de Léon le Grand, si mes souvenirs sont bons, avec Attila.
Sous Léon le Grand.
Alors, il repousse Attila, pardon.
Oui.
En revanche, il y a un sac de la ville.
En 455, voilà, ça, ce sont les Vandales.
Voilà.
Les Vandales, à cause d'un. Sur le prétexte d'un mariage non conclu entre le fils du roi Vandale et la fille de l'empereur, sous ce prétexte, les Vandales sont venus. Par mer depuis l'Afrique du Nord vers Rome et ont pillé la ville pendant 2 semaines.
Alors venons-en au miroir et cette image des miroirs, je l'explique, hein, vous la présentez dans votre conclusion, vous dites que la chute au fond n'est qu'un jeu de miroir, comme dans les foires où les uns se renvoient l'image et un peu de manière infinie, et du coup l'œil n'arrive pas à distinguer le vrai du faux, sauf que précisément un historien est là pour essayer de comprendre et de s'approcher de cette vérité.
Oui, et les miroirs effectivement changent selon les époques. Par exemple, pour Gibbon, le christianisme est quelque chose de délétère parce qu'il a introduit une orthodoxie au lieu d'une orthopraxie des rituels païens et que du coup le christianisme a en quelque sorte ébranlé le monde romain. C'est ce que Voltaire aussi pensait, c'est tout le fil de la libre pensée. Mais il y a aussi, je pense, le miroir de la monarchie. Est-ce que à l'époque de la monarchie absolue, quand même, qu'on a développé ces histoires de chute de l'Empire. Et au moment où l'on cherchait des microbes et où la science biologique était en train d'éclore au 19e siècle, eh bien, on a cherché des causes organiques. Au déclin possible de la population romaine. Les médecins ont voulu traduire dans toutes les coliques qu'on trouvait dans la littérature des effets du saturnisme, empoisonnement par le plomb. Disons que tour à tour, les époques ont choisi leur propre miroir. Le miroir prévalent aujourd'hui, en 2017, c'est manifestement celui de l'immigration.
Et des invasions.
Naguère comme invasion.
Justement, la germanité, puisque c'est la germanité à l'époque, il y a un fossé entre la germanité et la romanité.
Non, parce que les...
En fait, on a une image, j'ai l'image de ce film Gladiator que vous avez bien évidemment vu, où on voit cette espèce de barbare avec avec son immense hache, et le héros Russell Crowe, Maximus, qui dit à l'empereur Marc Aurèle, voilà, Rome représente, et il présente en fait toutes les valeurs romaines, l'universalité, etc., la civilisation, la culture, face les barbares.
En fait, c'est un discours de sénateur démocrate états-unien qui est mis dans la bouche de Russell Crowe. C'est ça. Alors que si Gladiator est le remake d'un film d'Anthony Mann qui s'appelait La chute de l'Empire romain. Et c'est un film très très intéressant. Il date de la fin des années 50. Et au cœur même du film, il y a une séance du Sénat qui est un véritable morceau de bravoure, parce que le général, qui ne s'appelle pas Maximus mais Livius, vient avec des chefs barbares au Sénat, et son esclave grec, qui est incarné par James Mason, fait un discours devant les sénateurs pour leur dire que les barbares ne font la guerre que si on leur fait la guerre, et qui seront, on peut les intégrer. C'est un morceau très 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 fort de cela. Parce qu'on Gladiator, effectivement, dans tous les films qui font du péplum ou de la fantasy, on met dans le dans la bouche des chefs un discours qui est un discours américain sur la démocratie américaine.
Mais alors justement, qu'est-ce qui vous permet de dire qu'il n'y a pas ce fossé entre cette germanité et cette romanité ?
Alors d'abord les textes, parce que...
Que j'ai appris d'ailleurs à la Sorbonne.
Ils nous apprennent que...
Une quinzaine d'années.
Ils nous apprennent que d'abord, à titre individuel, un nombre important de germains se sont intégrés et aux portes des noms romains et occupent des hautes fonctions, principalement militaires. D'autre part, l'archéologie nous a montré que il y a depuis le 1er siècle avant Jésus-Christ un contact commercial incessant entre les Romains et les Germains qui s'échangent des produits. Les Romains achètent des fourrures, achètent de la cire, achètent du miel, achètent des objets métalliques, parce que la métallurgie est un art très développé chez les Germains. Et les Romains sont habitués à commercer. Les Germains ne leur sont pas étrangers, à tel point qu'il y avait même deux provinces de Germanie, Germanie supérieure, Germanie inférieure, ce qui fait que ils ne sont pas inconnus. Leurs peuples sont connus par leur nom. Un certain nombre de Germains font carrière chez les Romains, d'autres retournent à la Germanie. Si vous voulez, il n'y a pas d'abîme. La seule différence qu'il y a aux yeux des Romains, c'est que les Germains demeurent des barbares parce qu'ils ne sont pas structurés en cités. Ils n'ont pas la même politéia, ils ne sont pas structurés en cités. Et ils n'obéissent pas, semble-t-il, à un droit écrit. Mais sitôt les Germains entrés dans l'Empire, ils se romanisent à une vitesse stratosphérique. Et ils se réclament de Rome. Et il y a une sorte des mélanges d'habillements germaniques et romains. Les Romains se mettent à porter le pantalon et le vêtement à manches. Mais en même temps, les Germains renoncent à des chevelures longues. Y a toutes sortes... Et puis, ils se mettent à boire du vin au lieu du lait caillé. Ils passent à l'huile d'olive au lieu du beurre. Bref, c'est le contact avec la romanité méditerranéenne qui transforme les usages des Germains. Donc, ce ne sont pas des entités étanches l'une à l'autre. Ce sont des gens qui se connaissent depuis des siècles. Ce qui change, c'est l'arrivée massive d'hommes en armes, à partir de 407.
Donc ce qui change, c'est la violence.
Ce qui change, c'est la violence. Oui, la violence et le nombre. Bien que le nombre des barbares qui sont entrés dans l'Empire à partir de 407 soit un pourcentage infime par rapport à la population globale de l'Empire.
Il est difficile de connaître, en histoire de la démographie, c'est...
On n'a qu'un seul chiffre qui est donné factuellement par Procope, c'est quand il dit que en 429, les Vandales ont quitté le sud de l'Espagne pour conquérir l'Afrique et qu'ils étaient 80 000. Donc c'est un peuple en marche. Mais si vous voulez, 80 000, qu'est-ce que c'est par rapport à un Occident romain qui compte peut-être dans les 25 millions d'habitants, 25-30 millions d'habitants.
Alors, il y a d'autres moyens, parce que l'histoire démographique a ses limites, vous venez de le dire, c'est l'archéologie. Et alors, je vous cite, l'épistémologie du Tesson a ses limites, ce qui m'a fait beaucoup rire, bien évidemment.
C'était fait pour.
Voilà, il est très important de garder le sens de l'humour. C'est l'idée d'un collapsus économique que vous présentez. Est-ce que on observe à cette époque, donc au 5e siècle, un ralentissement économique, comme l'ont présenté une partie des hypothèses sur le sujet?
Disons qu'on se fonde, les archéologues se fondent presque exclusivement sur la vaisselle cassée. Est-ce qu'on peut raisonnablement traité de l'histoire d'un pays, d'une nation, par l'étude de sa vaisselle cassée? Moi, personnellement, je pense que non. Alors qu'eux disent que la matière ne ment pas, alors que les textes mentent, etc. Ce que j'appelle une sorte de péténisme épistémologique. La terre ne ment pas, disait le maréchal. Et là, l'archéologue, c'est un peu le Tesson ne ment pas. Moi, je pense que l'apport de la céramologie indique qu'il y a des courants, des productions et des courants de production de céramique qui ont baissé, mais d'autres qui restent absolument vivaces. Mais ça ne peut pas nous servir à définir tout ça. On a des indices littéraires qui montrent que tous les courants commerciaux de l'Empire romain fonctionnent. En 400 est réédité le De Re Coquinaria, le volume de gastronomie d'Apicius qui date de l'époque augustéenne. Pourquoi est-ce qu'on le réédite alors que les recettes comportent un certain nombre d'ingrédients qui ne peuvent venir que d'Orient? À mon avis, les routes commerciales ne sont pas coupées. Il y a des trajets parfois qui sont rendus un peu plus difficiles ou périlleux, mais c'est tout à fait conjoncturel. Et donc, moi je pense que du point de vue économique, il faut plutôt regarder du côté de la monnaie. Et il y a une chose qui est pertinente, c'est qu'il y a un affaissement véritable et notoire des frappes d'or en Occident au 5e siècle.
Donc il y a moins de richesses ?
Voilà. Mais disons qu'après 410, il y a un certain nombre de familles qui sont parties avec leurs coffres à Constantinople. Les spécialistes du numéraire pensent que l'encaisse or de l'Empire romain d'Occident après 410 a en grande partie glissé vers l'Empire d'Orient.
Mais s'il y a une fuite des capitaux, enfin on pense à la fuite des capitaux aujourd'hui, c'est très comme quoi l'histoire est maîtresse de vie et de vérité. Si on pense à la fuite des capitaux, c'est parce que au fond on vit une situation de crise.
Peut-être pas une situation de crise, c'est que les gens ont peur.
Donc les gens ont une représentation, mais cette représentation, elle est plus lors de la croyance.
L'or à l'abri. Mmh. On met l'or à l'abri. Et tous ne le font pas d'ailleurs. Parce qu'après 410, Mélanie, qui est la femme romaine, la romaine la plus fortunée de tout le monde romain. Mélanie. Qui a quitté Rome et passé par l'Afrique, et passe toutes les années 410-440 à mettre dans toutes les provinces, à mettre en vente ses biens. Mmh. Parce que, comme elle a épousé l'idéal de la vie angélique, de la vie chrétienne, elle veut se défaire de sa fortune. Mmh. Et l'empereur a mis à sa disposition les gouverneurs locaux pour organiser les ventes aux enchères. Et donc... Il y en a qui mettent l'or à l'abri à Constantinople, mais il y en a d'autres qui s'en défont en faisant de larges donations aux églises africaines et égyptiennes, syriennes, oui. Aux monastères, oui. Etc. Ce qui crée d'ailleurs des jalousies dans les milieux épiscopaux.
Alors, autre miroir qui est un miroir qui me semble très important, c'est le miroir culturel. Est-ce qu'on assiste à un affaiblissement culturel? Est-ce qu'on assiste à un déclin de ce qui était la culture, la culture grecque et la culture latine?
Non, absolument pas. Disons que les canons classiques de la culture classique ont fait que, sous la IIIe et la IVe République en France, on admettait que le latin cicéronien, tout le reste étant décadence. On admettait le latin cicéronien, et si la grammaire ou le latin se faisait moins pur, entre guillemets, c'était forcément un signe de déclin. Pareil pour l'art. Or, ce que j'ai voulu faire dans ce livre, c'est de montrer dans le chapitre sur la culture qu'on n'était non seulement pas dans l'affaissement, mais qu'on était au contraire dans une... je dirais presque un âge d'or à la fin du IVe siècle de la poésie, de l'âge d'or il y a une production dans le domaine juridique, médical, poétique, historique, qui est pratiquement sans équivalent avant. Et le latin, Damien Marcellin, grand historien du IVe, le latin de Sidoine Apollinaire, évêque de Clermont, ancien préfet de Rome, au Ve siècle, sont des latins absolument lisibles et éloquents. Donc, on a voulu projeter un déclin de la langue comme un déclin de la société, ce qui est vraiment faux.
Je me souviens dans des travaux personnels avoir étudié un peu Grégoire le Grand. Donc nous sommes un siècle plus tard. Grégoire le Grand, on a l'impression qu'il préserve ce qui peut être préservé. Il va à l'essentiel et il ne se soucie pas d'approfondir en se plaçant plutôt, j'allais dire, dans la pédagogie plutôt que dans la recherche, l'étude, etc.
Mais ça, on le voyait aussi chez saint Augustin. Disons que les orateurs chrétiens, pour parler d'eux, ceux qui font des homélies, par exemple, au 5e siècle et au 6e siècle, ont plusieurs registres de discours. C'est-à-dire qu'on a très bien vu dans les sermons de saint Augustin, par exemple, qui parcourent la Numidie, son diocèse, que son latin n'est pas du tout le même selon qu'il s'adresse à des catégories populaires. Il fait du sermo rusticus, ou aux catégories cultivées de la ville.
Donc c'est pas un signe de déclin, c'est un choix littéraire.
C'est un choix de pédagogie.
De pédagogie,
comme vous le disiez, oui. Oui, absolument.
Bertrand Lançon, nous arrivons peu à peu au terme de cette émission. Quand je vous lis, je me dis, la première chose que je me suis dit, c'est que chaque époque a ses propres historiens.
Oui, je pense que oui, parce que les historiens produisent quelque chose, mais ils sont aussi les enfants de leur temps. Donc, j'en dis quelques mots d'ailleurs en introduction, c'est que je pense qu'il ne faut pas être dupe de notre appartenance aussi à une époque et à sa propre formation. Moi, par mon éducation et mon âge, j'ai plus été élevé dans un courant Hosanna Maru que Gibbon. L'essentiel est de ne pas en être dupe. Donc, à mon avis, ça doit incliner l'historien à avancer avec mesure.
Humilité.
Sans humilité ne veut pas dire non plus se coucher devant l'obstacle ou disparaître en tant que penseur autonome. Mais je pense qu'il faut faire attention à ne pas être dupe. C'est ça la démarche, l'effort de l'historien, c'est d'être le moins dupe possible de ses influences.
Donc c'était pas une défaite de la science ?
Ah non, pas du tout, parce que l'histoire a cette particularité que d'être pour partie scientifique dans sa méthode et pour partie art dans son expression. Et bien, si vous gardez que la science, vous ferez quelque chose de très aride et qui nuit à la transmission. Si vous ne faites que de l'art, vous pouvez passer pour fantaisiste. C'est dans le mariage des deux, je pense, que réside la singularité de la démarche historique.
Eh bien, merci.
Je vous en prie.
Bertrand Lançon, La chute de l'Empire romain, une histoire sans fin, un ouvrage paru aux éditions Perrin que je vous incite à découvrir pour sa richesse. Merci, et nous nous retrouverons, Bertrand Lançon, dans quelques semaines, puisque nous aborderons au cours d'un cours d'histoire la vie de Théodose, justement un personnage qui se situe à une époque de transition. Merci beaucoup et à très bientôt pour un nouveau numéro des Grands Entretiens.